This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Carlo Pourasanta, le CEO de Microsoft France. Bonjour Carlo, je suis ravie de t'avoir au micro du coup, puisque je ne te vois pas, nous sommes confinés encore, donc on fait ça à distance.
Voilà, bonjour Alice. Ben oui, chacun chez soi, mais ça marche très bien.
C'est ça, on découvre les nouvelles, on redécouvre même les nouvelles technologies. Moi, j'apprends du coup le métier de podcasteur confiné, le podcasteur à distance. Et en plus, du coup, je te découvre uniquement par la voix. Et c'est assez dingue, puisque on n'a même pas fait de visio. Et je sais pas, je trouve ça fou. Moi, je trouve que ça va être... finalement, je vois encore le pouvoir de la voix.
Le pouvoir de la voix. On l'a appris avec la radio quand même, qui nous a accompagnés et nous accompagne toujours. C'est un média incroyablement... riche et qui reste très proche des personnes pour ça.
C'est une puissance dingue.
Le pouvoir de la voix, de l'intonation, du son.
Je suis entièrement d'accord. Donc, du coup, je vais te découvrir par ce biais. Déjà, tu es confiné où ?
Je suis à Paris, chez moi. Donc, ayant deux chiens et une famille à gérer, c'est compliqué. Donc, voilà. Et ah, puis, j'ai ma pièce pour pouvoir travailler. Donc, je peux m'isoler et c'est assez pratique, en fait. Et du coup, voilà, j'ai redécouvert le plaisir de travailler à la maison. On le faisait déjà chez Microsoft, on a quand même l'habitude, grâce aux outils, de pouvoir le faire. Mais c'est une fois de temps en temps. Alors, le faire à 100% de son activité, c'est très différent. Donc, nous avons découvert plein de choses en cette période.
Et l'activité, du coup, est tournée toujours à 100%? Comment l'activité s'est adaptée à ce confinement, du coup?
Alors, à 100% pour tous les employés, sauf bien sûr ceux qui ont des activités dans les data centers, parce que nous avons des data centers Azure en France, à Paris et Marseille. Donc, il y a quelques collaborateurs qui ont besoin d'avoir l'accès physique, notamment pour augmenter la capacité de ces centres de données en fonction de la demande client. Donc, on a eu de l'approvisionnement de nouveaux serveurs et de la capacité. Donc voilà, quelques collaborateurs qui ont besoin d'avoir accès, et puis tous les autres, donc tous ceux qui sont dans des activités de consulting, de vente, de support, ou ce qu'on appelle maintenant customer success, c'est-à-dire aider les clients à la bonne utilisation des outils, et ben on fait tout ça à distance, grâce à Teams et grâce aux autres applications que nous utilisons.
Parfait. Bon, merci déjà pour cette petite introduction de confiné. Hein. Comme ça, on s'adresse finalement au monde entier puisque une grande partie de la population est confinée. J'ai envie maintenant de te découvrir toi, d'où tu viens. Tu peux peut-être me retracer un petit peu ton parcours avant d'en arriver à la tête de Microsoft France.
Oui, comme l'accent le révèle, je crois.
Et le nom, hein. Clairement, quand j'ai lu le nom, je ne me suis pas dit que tu étais pure souche français.
Le nom et l'accent révèlent une origine italienne. Donc, je suis né à Milan en 71. Donc, c'était des années compliquées en Italie à l'époque, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais c'était la période un peu du terrorisme, des brigades rouges et tout ça. Donc, c'était une période assez compliquée. Et en même temps, Milan et Lombardie, c'est un endroit très industriel et très fort d'un point de vue économique. Donc voilà, j'ai grandi.
J'ai travaillé à Milan, moi d'ailleurs. J'ai travaillé à Milan.
C'est une ville, c'est une ville assez extraordinaire en fait, qui s'est réinventée depuis 5-6 ans, qui s'améliore avec ouverture de musées, galeries d'art, bars, restaurants. C'est une ville en pleine transformation. Donc c'était beau de le voir. Donc en fait, j'ai alterné Milan et Rome comme ville en Italie. Et puis, j'ai eu une première expérience quand j'avais 8 ans à Paris en 79. Donc, je suis arrivé il y a très longtemps. Et puis, à plusieurs reprises, donc j'ai alterné toujours Paris, Rome, Milan. Et en fait, quand je fais le calcul aujourd'hui, je vais avoir 49 ans bientôt. Et cette année, donc, j'aurais fait 25 ans en Italie, 24 en France.
Ah oui, presque moite-moite, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est génial, ça. Et tu parlais déjà français ou tu l'as appris pour venir en France?
Je l'ai appris quand, à 8 ans, je suis arrivé ici. J'allais à l'école italienne. Mais en fait, on faisait déjà 6 heures de cours de français par semaine, plus les activités sportives ou autres l'après-midi. Donc, du coup, j'ai appris quand j'étais tout petit. Et puis, voilà, le vocabulaire, c'était bien sûr le vocabulaire d'un enfant. Donc, j'ai dû l'améliorer en revenant ici en 96. Mais voilà, donc mais une certaine facilité et l'oreille pour la langue reste, parce que quand on apprend une langue quand on est petit, après ça reste toute la vie. Donc ça, c'est grâce à ça que je peux m'exprimer de façon assez correcte, enfin à peu près correcte.
Ah oui, non, même plutôt très fluide, hein. Moi, je n'ai pas ce niveau-là en italien, hein. Et tu as fait des études d'ingénieur, tu disais, parce que tu voulais t'orienter vers l'architecture, hein, normalement.
Alors si voilà, tu sais tout alors. Non.
Ah mais je suis une petite fouine.
Ingénieur par dépit, parce que mon rêve c'était architecture. Et d'ailleurs, je pense que je vais reprendre un peu ces études.
Et moi, tu sais que c'est mon rêve aussi en fait, c'est ça qui est dingue. Bah, même pareil que toi, hein. Moi je me suis pas du tout orientée là-dedans.
Je trouve que ce qui est fascinant dans l'architecture, c'est le fait de pouvoir façonner quelque chose de physique qui change la façon de vivre un endroit.
De laisser une empreinte.
Et à l'extérieur, ceux qui passent le voient, mais ceux qui vivent à l'intérieur, ils vivent. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et oui, et ça reste pendant quelques siècles. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais on va dire quelques siècles. Donc, je trouve ça fantastique. Et toutes les histoires, même quand j'entends à la télévision ou à la radio les histoires de Haussmann, 1850, Napoléon III et ce qu'ils ont fait, ben tu te dis, tu vois, enfin après on aime, on n'aime pas. Enfin moi j'adore Paris, donc je suis un fan absolu. Voilà, ben le Paris qu'on voit aujourd'hui, c'était un dessin stratégique qui a été fait par quelques personnes. Et c'est de l'urbanisme dont on parle encore aujourd'hui autant d'années après.
C'est difficile, hein. Rome et Milan et moi je viens de Toscane, c'est quand même magnifique l'architecture toscane, tu sais, les Duomo, les oh là là, moi je suis une passionnée. Hein.
Toutes enfin, les petites villes italiennes sont absolument magnifiques. Oh là mais là alors, là. Quand j'avais 20 ans, quand tu voulais faire architecture en Italie, ça voulait dire ne pas avoir un boulot fixe avant les 35 ans. C'est-à-dire que tout le monde était en stage. Pendant des années, souvent mal rémunérés ou non rémunérés à l'époque, hein, c'est moins vrai maintenant, parce qu'il y avait trop d'offres et peu de demandes d'architectes. Donc, j'ai fait un choix raisonné de m'orienter vers de l'ingénierie, en sachant que une fois que tu as fait de l'ingénierie, il y a plein d'examens que tu peux réutiliser pour faire après un diplôme d'architecte. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais faire ça. Je me suis découvert passionné en fait par pas mal de choses techniques. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion de rentrer dans le monde de l'informatique et de trouver cette passion pour résoudre des équations complexes pour des clients qui veulent changer leur façon de produire, de commercialiser, de vendre, de travailler grâce à la technologie. Et du coup, voilà, je m'y attendais pas, mais c'est devenu une vraie passion. Et du coup, au fur et à mesure des différents jobs que j'ai pu avoir chez IBM dans les 15 premières années et puis chez Microsoft maintenant, voilà, c'était une vraiment bon, enfin un parcours où je me suis jamais ennuyé, je dirais un jour. Il y a des nouveaux challenges toutes les semaines, tous les mois, et ma passion. Et d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis fier d'avoir réussi aussi de travailler pour des multinationales, mais tout en restant dans mes pays préférés qui sont Italie, France. J'ai travaillé aussi un peu en Espagne. Donc mon cœur bat pour utiliser la technologie pour transformer la façon de faire les choses dans les pays que j'aime. Donc, il n'est pas exclu que j'aille le faire ailleurs, mais pour l'instant, j'ai vraiment souhaité rester dans les pays que j'aime pour dire comment est-ce que je peux contribuer avec, que ce soit des clients privés, publics ou l'administration, mais comment est-ce que je peux aider les pays que j'aime à améliorer leur façon d'opérer, de travailler, de concevoir l'innovation, d'imaginer des produits et de les amener dans le monde. C'est ça qui me passionne.
Et comment tu es arrivé du coup à la tête de Microsoft? Donc tu nous disais que tu étais passé par IBM. De mémoire, tu avais suivi aussi les traces de ton papa allant chez IBM.
Ça un peu par hasard parce qu'en fait j'étais embauché pour une entreprise qui ensuite a été rachetée par IBM en 98. Donc mais oui, d'accord. Je me suis retrouvé à IBM. C'était l'époque où IBM achetait beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, c'est arrivé à ma sœur aussi qui était dans une autre entreprise et qui a été rachetée par une autre et in fine par IBM. Donc, si tu veux. On s'est
retrouvé la loi d'attraction, tu ne sais pas ce qui se passe, vous retrouvez.
La technologie à une époque était vraiment IBM et un peu d'autres plus petites, donc oui. C'était un peu ça. C'était il y a une vingtaine d'années, 25 ans, et puis donc ma sœur et moi, on s'est aussi côtoyés pendant quelques mois, puis elle est partie en congé maternité, et quand elle est revenue, j'étais parti chez Microsoft. Donc 15 ans d'apprentissage chez IBM, boîte fantastique, parce que j'ai appris toutes les bases, et d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue, les aspects vente, commerce, relations clients, et puis management, parce que je suis devenu manager quand j'avais 29 ans à l'époque, donc j'ai eu l'occasion de découvrir le monde de gestion d'une équipe, et c'est fantastique. Et donc, je dois beaucoup à cette entreprise qui m'a vraiment formé avec 15 années magnifiques d'expérience, de travail. Et d'ailleurs, j'ai travaillé en France localement pour la filiale française, mais j'ai travaillé aussi pour l'Europe à deux reprises. J'étais rattaché au headquarter d'IBM à Madrid. Et donc je faisais du commute à l'époque, on va y revenir parce qu'aujourd'hui ça serait peut-être pas une bonne idée de prendre autant d'avions, mais à l'époque je le faisais. Donc j'habitais à Paris et puis en fait je n'allais pas au bureau à Madrid toutes les semaines, je travaillais depuis Paris ou j'allais dans les pays qui étaient dans la zone géographique que je couvrais, donc l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, donc je faisais toute la Méditerranée jusqu'à Belgique, Néerlande, et c'était l'occasion donc d'avoir une vie dans l'avion pour aider les différents pays. Donc plusieurs espérances chez IBM et puis cette opportunité de passer chez Microsoft en 2011 que j'avais choisi de franchir le pas, notamment parce que ce que j'aimais de Microsoft, c'est que c'était une entreprise forte dans le monde justement entreprise, mais aussi dans le monde consumer, ce qui n'était plus le cas chez IBM, parce qu'à l'époque ils avaient vendu toute la partie PC, ordinateur, donc ils avaient arrêté toutes les activités consumer. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, à la fin des années 2010, donc c'était 2008-2009, beaucoup d'analystes disaient en fait que l'informatique un jour appartiendra aux entreprises qui connaissent bien les deux mondes, entreprises et consommateurs. Et en fait, c'était une bonne prédiction parce que c'est un peu le cas aujourd'hui. Hein. On voit que les nouveaux grands, c'est souvent des entreprises qui ont une forte empreinte avec le monde du consommateur. Et Microsoft en fait partie. C'est ce qui m'avait plu à l'époque. Et donc, j'ai fait ce choix en 2011. Donc, ça fait maintenant presque 10 ans que je suis dans cette entreprise très différente, d'ailleurs. Deux entreprises, toutes les deux multinationales basées aux États-Unis, mais avec une culture différente. Et voilà. Donc, immergé dans ce nouveau monde, j'ai fait 2 ans en tant que patron du consulting et du support pour Microsoft en France. Puis, j'ai eu la chance d'être choisi pour être le country manager en Italie. Donc je me suis retrouvé à travailler dans mon pays dans lequel j'avais fait des études mais j'avais jamais travaillé, donc j'ai dû tout réapprendre d'un point de vue écosystème, client, partenaire, même langue, parce que je parlais l'italien bien sûr très bien d'un point de vue personnel, mais le vocabulaire professionnel étant un peu différent, il faut quand même réapprendre, et j'ai fait ça pendant 5 ans, c'était fantastique. Et puis voilà, donc discussion avec la hiérarchie Microsoft qui ont commencé à dire où est-ce que tu veux aller, est-ce que tu veux aller en Asie, aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde. Et puis il y a eu cette occasion de revenir en France et c'était vraiment avec grand plaisir. Je suis retourné il y a 2 ans et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire participer à la construction et à la transformation surtout d'un pays européen que j'aime, que je connais maintenant bien parce que j'ai passé presque la moitié de ma vie et où il y a tellement de choses à faire pour dynamiser l'économie, pour créer des opportunités pour les personnes, transformer la façon d'apprendre toute sa vie, aider le gouvernement et les administrations aussi à transformer leur façon de fournir les services publics, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire.
Justement, je vais rebondir sur ça, puisque tu sais que dans l'empreinte, on est très attaché. La vocation de ce podcast, justement, c'est cette vocation RSE de transformation de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Quand on est CEO de Microsoft France, on doit forcément mesurer l'ampleur de tout cela. Quelles sont, toi, les actions que tu as menées, que tu aimerais mener, peut-être avec Microsoft là-dessus? J'ai vu aussi que tu participes beaucoup à donner de la place aux femmes dans la tech, et ça me parle énormément.
Bien sûr. Alors, je vais décliner un petit peu les choses qui sont au cœur de notre activité, mais peut-être juste pour donner un contexte. J'aime bien reparler de la mission de Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft, quand le nouveau CEO est arrivé il y a maintenant 6 ans, c'est en 2014, il a redonné une mission à Microsoft qui est la plus simple et, à mon avis, la plus parlante dans le monde de la technologie. Et il a dit, en fait, que nous voulons être une plateforme pour permettre à chaque personne et à chaque organisation de réaliser ses ambitions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Ça veut dire que tout ce que nous faisons, les produits que nous faisons, les actions que nous prenons, les mouvements qu'on essaie d'engager dans une nation, ça doit servir, in fine, à que la technologie permette aux personnes de faire plus, mieux. Donc, réaliser leurs ambitions, ça veut dire en fonction de ce que tu veux faire. Tu veux apprendre, tu peux apprendre grâce à la technologie. Tu veux créer un job, tu peux le faire. Tu veux améliorer une opération existante d'entreprise ou de service public, comment on aide à faire ça? Et donc, cette réalisation de l'ambition, c'est quelque chose qui est très noble et aussi une grande responsabilité. Et donc, quand on prend la tête d'un pays, on se pose cette question constamment. C'est-à-dire, il y a une mission, comment est-ce que nous sommes en train de l'interpréter? C'est quoi les choses les plus importantes que nous devons faire en France, en 2020? Qu'est-ce que ça veut dire que réaliser cette ambition en France? Et donc, c'est une question qu'on se pose tous les ans avec mon équipe et on se donne les priorités pour l'année suivante en disant quelles sont les missions qu'on se donne, quels sont les thèmes, quelles sont les actions qu'on prend. Et donc, il y en a plusieurs, comme tu l'évoquais. Il y a effectivement des choses pour les femmes. Je l'ai fait en Italie avant, je le fais en France maintenant. Nous sommes encore loin d'avoir un monde qui est à l'image de la population. J'espère que ça sera moins vrai pour les filles et garçons qui ont 15 à 16 ans aujourd'hui et qui vont être dans le monde du travail dans 5 à 10 ans. Mais c'est encore un point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que nous avons construit une France qui va donner un monde dans tous les métiers 50-50 et dans la technologie en particulier? Je pense que 10 ans, ça va
comment
être...
Comment donner envie aux femmes, justement?
Comment donner aussi envie aux filles en sachant que les études... Il y a plusieurs études qui disent que, et c'est nous, les médias, les entreprises, les gouvernements, etc., et les familles aussi, nous créons un contexte qui fait que les filles entre 12 et 16 ans, en fait, ont un espèce de décrochage par rapport à l'amour pour la technologie. C'est-à-dire que si tu demandes à une fille jusqu'à 10 ans, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes bien le smartphone, la technologie, etc.? Oui, oui, oui. Est-ce que tu aimes jouer avec des ordinateurs? Oui. Est-ce que tu penses que ça peut être ta vie dans le futur? Est-ce que tu peux imaginer de faire une carrière dans la technologie? Elles te disent oui, et c'est sensiblement pareil avec les garçons.
Mais tu sais que moi, quand j'ai étudié à Angers, il y avait l'école d'ingénieurs à côté, puis l'école de commerce. Moi, j'ai fait l'école de commerce. Et tous mes amis ingénieurs, qui étaient des garçons, nous disaient, mais nous, toutes les soirées, on est obligés de venir à l'école de commerce parce qu'il n'y a pas de filles. Et déjà, toute jeune, je voyais la différence.
Eh oui, et ça, il y a même eu un pic à 15% de filles en ingénierie, et puis ça a rediminué, je pense, à 10-11%. Donc, tout ça est dû à l'adolescence et à un certain contexte que nous créons tous et qui fait penser aux filles que du coup la technologie est pas faite pour elles. Alors la bonne nouvelle, c'est que non seulement c'est pas vrai, mais que la technologie est aussi différente par rapport à il y a quelques années. Et donc rien n'empêche, même en ayant fait un parcours différent qu'une école d'informatique ou d'ingénieur ou de mathématiques, etc. En fait, on peut très bien faire de la technologie après, parce que du coup il y a de la formation qui est excellente. On peut en faire son métier à tout moment. D'ailleurs, nous, on a une démonstration avec des écoles que nous avons créées, l'école IA, l'école d'intelligence artificielle. Et ben, en fait, en quelques mois, on peut apprendre de la technologie, on peut comprendre une matière qui semble complexe, mais on peut vraiment s'y passionner et la maîtriser au fur et à mesure. Et il y a plein de métiers qui ont à voir avec la technologie et où on a un besoin énorme de femmes. Y compris, et on en parle de plus en plus avec la notion d'intelligence artificielle, c'est que si on veut faire des ordinateurs qui sont intelligents et qui comprennent, aujourd'hui on se trouve confronté à deux problèmes. C'est que, un, les données du monde ont des biais, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas qualitatives par rapport à femmes, hommes, et tout autre type de biais à l'intérieur des données. Donc, en fait, les données sont pas suffisamment bonnes pour que les ordinateurs puissent apprendre sans faire d'erreur. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que si c'est que les hommes qui vont faire l'entraînement des ordinateurs pour devenir intelligents, ben, on va augmenter les biais. Pas par méchanceté, mais juste par manque de diversité dans les choix. Donc, on a besoin d'un monde femmes-hommes dans la technologie parce que les ordinateurs, ils ne seront pas plus intelligents de ceux qui les entraînent et de ceux qui créent les algorithmes et de ceux qui vérifient la qualité des données, etc., etc. Donc, on a vraiment besoin de cette diversité. Et donc, on est, oui, on s'emploie avec Microsoft sur plein d'actions. Ça va des actions qu'on fait avec Unicité pour aller expliquer la technologie grâce aux jeunes qui font le service civique. On a fait un programme, on a formé 50 000 enfants en un an, juste à qu'est-ce que ça veut dire utiliser la technologie, comment est-ce que je peux être un bon citoyen en utilisant les ordinateurs, les smartphones, qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire code. On pense que le fait de donner des clés de lecture aux plus jeunes, et ben en fait, ça peut leur donner envie à tous, à toutes et à tous, de pouvoir en faire leur métier après. Après, on a fait des écoles où on s'assure justement qu'il y a une bonne mixité. On a signé la charte Jamais sans elle. Nous avons été la première entreprise à le faire, pas en tant que dirigeant, mais en tant que comité d'entreprise. Ça veut dire que quand moi ou un de mes collègues du leadership team de Microsoft France, nous sommes soit dans un meeting à l'extérieur, donc dans une conférence, soit dans une conférence à l'intérieur de Microsoft, soit même nous avons étendu ça aux réunions avec nos clients et nos partenaires, il faut qu'on s'assure que l'équipe dans laquelle on est a un juste degré de mixité. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'on explique pourquoi on n'a pas réussi à avoir ce degré de mixité et expliquer que la charte que nous avons signée nous demanderait d'avoir ce degré de diversité dans l'équipe qui représente Microsoft ou qui est dans un panel d'une conférence. C'est très puissant, c'est tout simple, c'est très puissant. Et donc, non seulement on a participé maintenant depuis presque 2 ans à cette initiative, mais on s'est fait aussi promoteur autant vers d'autres entreprises qui nous ont suivis dans le fait de signer cet engagement fort. Donc voilà, plein de choses.
C'est très fort, oui, comme engagement humain et comme engagement, du coup, écologique. Quand on est un grand groupe comme Microsoft à l'ère de la dématérialisation, et là, on le voit en plus avec le confinement, l'impact et l'empreinte écologique d'un grand groupe comme Microsoft ne doit pas être forcément très positive. Quelles sont les actions que tu as menées ou que tu aimerais mener, les points, ou est-ce que c'est de l'évangélisation comme le fait Orange? J'ai eu Béatrice Mandine du groupe Orange qui me disait que finalement la vocation d'un groupe comme Orange dans la téléphonie, c'était beaucoup d'évangéliser les bonnes pratiques d'inciter les utilisateurs à réduire leur temps d'écran, leur consommation, etc. Quels sont les engagements de Microsoft? Et moi, ça m'intéresse forcément. Et puis tes engagements personnels aussi.
Bien sûr, Microsoft, déjà, je dirais que on a été un tout petit peu précurseur parce que nous avons été en 2012 la première entreprise à être neutre grâce à l'achat de certificats. Maintenant, ça semble quelque chose d'ancien parce qu'on dit même que le fait d'acheter des certificats et de ça, on pourrait presque parler de, parfois on dit greenwashing. Alors, je dirais pas autant parce que c'est quand même bien de neutraliser son empreinte grâce à des certificats. Mais c'est vrai que on pourrait se donner bonne conscience tout en gardant des comportements qui sont pas vertueux. Mais ça, c'était en 2012 et on était quand même la première entreprise à le faire. Et je pense que ce que Microsoft aime, c'est aussi parfois être role model, donc créer un modèle qui puisse être réplicable. Et parce que nous l'avons fait en 2012, je suis certain qu'il y a plein d'autres entreprises qui ont fait la même chose. Maintenant, on s'est rendu compte depuis 2015 que ce n'est plus suffisant. Pourquoi? En fait, c'est relativement simple. La COP21 a donné une direction souhaitable pour ce siècle, n'est-ce pas? Donc, on dit il y a une bataille pour le climat, il y a des efforts que tout le monde doit faire. Nous avons compris que nous sommes dans un dilemme, en fait, parce que il y a trois partie, on va dire, à cette table. Il y a les gouvernements, il y a les entreprises, il y a les citoyens. Et on sait que pour respecter les propos de la COP21, ça va être très difficile et que si certains de ces trois écosystèmes ne commencent pas à être plus vertueux, en fait, on va pas y arriver. C'est ça la réalité. Parce que les citoyens, il y en a qui sont très conscients, mais c'est encore une partie qui est relativement petite par rapport aux 100% des 7 milliards de personnes que nous sommes sur la planète. Nous savons que les États, ils veulent tous y aller, mais si ce n'est pas de façon conjointe qu'on prend la décision, un État qui prendrait la décision tout seul, il pourrait provoquer une problématique de compétitivité de ces entreprises. Donc, c'est quand même problématique. Donc, il faut y aller par petits pas et il faudrait y aller par grands pas, mais en cohérence entre gouvernements. Et on a vu que c'est pas simple. Et pour les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu le fais en premier et trop vite, est-ce que c'est un vrai besoin pour tes consommateurs? Et est-ce que si ça a un coût, est-ce que tes consommateurs, ils sont prêts à payer peut-être un petit peu plus parce que tu es plus vertueux? Ben, c'est des problématiques qui sont très compliquées, en fait. C'est pas si simple. Et alors, nous, on s'est dit, on a fait cette réflexion. Les deux dernières années, on s'était déjà donné les moyens pour avoir une certification qui est très bonne et qui est de dire, donc ça s'appelle Science Based Target Initiative, c'est un organisme tiers qui vient regarder comment tu opères et qui te dit, oui, ce que tu fais, ton programme, te garantit d'être sur la ligne de la courbe de production de CO2 souhaitée par la COP21. Et ça, nous, on l'a fait déjà il y a 2 ans. Donc ça, c'est bien. Mais on a dit la chose suivante. Mais si nous, on est bon sur cette trajectoire, ça veut dire que nous sommes pas en train de faire assez. Parce que admettons que toute la planète arrive à tenir la direction de la COP21, et ben ça veut dire que si la moyenne y arrive, ça veut dire qu'il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font beaucoup moins, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont faire beaucoup moins. Alors nous, on s'est dit, on peut pas être juste dans la moyenne, il faut qu'on fasse beaucoup plus. Et c'est là que on a travaillé pendant 1 an et demi sur un nouveau plan que nous avons annoncé en janvier et qui va avoir en fait 4 étapes, dont la première que nous avons annoncée en janvier est déjà très très forte, parce qu'en fait on a dit, nous allons avoir 2 phases, nous allons avoir entre 2020 et 2030, on va faire en sorte que Microsoft passe de, on émet du CO2, en 2030, on va arrêter d'être producteur de CO2 et on va commencer, en fait, à abattre plus de CO2 de ce qu'on produit. Donc, on va devenir négatif. Ça, c'est 2030.
Comment, concrètement, comment tu vas devenir négatif?
Concrètement, plein de choses à partir de nos data centers qui sont des grands consommateurs d'énergie, bien sûr, parce qu'on fournit les services à plein d'entreprises, à plein de consommateurs. Donc déjà, on regarde le scope 1, scope 2, scope 3. On va passer en énergie renouvelable à 100% en 2025. Donc, il va y avoir un effort dans les 5 années à venir pour rendre green tout notre data center. Et il y en a aujourd'hui, nous sommes à 50 zones dans le monde. Chaque zone, c'est 2, 3, 4 data centers. Donc, tu peux imaginer la grandeur de cet effort et donc tous les travaux que nous devons faire pour rendre complètement green tous les data centers de la
planète.
Donc, c'est déjà énorme. À partir du moment où on fait ça c'est les data centers, mais il faut qu'on le fasse aussi pour nos opérations bureaux. Donc, il y a un premier campus que nous sommes en train de construire dans notre siège à Redmond. On est en train là de faire les travaux initiaux, donc je pense que ça va prendre 4-5 ans pour le réaliser, mais il va être zéro carbone, zéro waste, donc zéro déchet, complètement conçu en économie circulaire. Et à partir du moment où on fait ça, en parallèle, on doit travailler pour l'ensemble de nos bureaux. Ensuite, il y a les voyages, ensuite il y a les parcs voitures. Donc en fait, il faut travailler sur toute la chaîne pour que non seulement on arrive à définir tout ce que nous faisons nous, mais ensuite on va travailler aussi avec tout notre écosystème, parce que quand on parle de scope 2, on parle aussi de nos fournisseurs, de la logistique qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise. Donc on va regarder le scope 1 direct, le scope 2 indirect, et on va toucher jusqu'à une partie du scope 3 pour la partie consommateur, donc pas pour les entreprises, mais pour les consommateurs. Donc ça veut dire qu'on va s'assurer que, je sais pas, un joueur de Xbox, il consomme de l'énergie, et sur la base de calcul de quelle énergie il utilise, on va compenser cela avec de la réforestation ou d'autres choses. Donc tout ça jusqu'à 2030. À partir de 2030, parce que nous allons continuer à faire des actions pour abattre le CO2, recréer des forêts, etc., etc., on va être négatif. Ça veut dire que nous allons éliminer plus de CO2 de ce que nous allons émettre. Et ça va nous permettre, dans les 20 ans successifs, donc de 2030 à 2050, au fur et à mesure donc de cette négativité, donc on élimine du CO2, en 2050, on considère que on aura éliminé toute l'empreinte carbone de Microsoft depuis 1975. Ça veut dire que tout ce qu'on aura fait de 1975 à 2050 en tant qu'entreprise, eh ben, en fait, on l'aura effacé de la planète. Donc,
tu débases sur des chiffres actuels. Tu penses pas que ça peut évoluer, cette consommation de data, ou tu vois, c'est des estimations, tout ça.
C'est un engagement. Donc, ça prend en compte les évolutions qui sont, en anglais, on dit foreseeable future. C'est-à-dire, c'est sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, il y aura plein de surprises, mais je vais te dire, il y aura plein de surprises aussi positives.
Par exemple, oui, bien sûr, faut rester positif.
Eh oui, par exemple, les technologies pour éliminer du CO2. Il y en a qui commencent à exister, c'est pas encore complètement abouti.
C'est pas optimal, oui.
Exactement. Donc nous, on s'est dit, pour tenir ces engagements, on peut pas juste attendre que ces technologies existent, on va investir pour qu'elles existent. Donc nous allons mettre $1 milliard dans des projets de recherche, et ça va être à chaque fois des co-investissements avec des universités, des entreprises, des consortiums qui travaillent pour la construction de cette technologie. Donc, on va cofinancer la détection et la construction des meilleures technologies pour l'élimination du CO2. Donc, tu vois, la production d'énergie déjà va s'améliorer, va devenir toujours plus verte, énergie renouvelable. Je pense que la consommation va s'améliorer. Mais aussi on aura plus de technologies pour pouvoir éliminer du CO2. Donc tout ça fait que on est confiant sur le fait qu'on va tenir cet engagement pour 2050. Si on peut le faire, tout ce qu'on va découvrir, on va pas le garder pour nous. C'est-à-dire que ce qu'on va faire pour des bureaux, ce qu'on va faire pour les voyages, ce qu'on va faire pour les parcs voitures, toutes les mesures qu'on va pouvoir prendre sur nos opérations, tout ça, nous allons pouvoir le partager avec nos clients. Déjà, un client qui utilise Azure, je te fais un exemple très concret, mais le fait de dire j'ai une production informatique dans un data center physique chez moi que je connais, ou je mets ça dans Azure, ben déjà, il y a des facteurs entre 5 et 10 de réduction d'émissions de CO2. Déjà aujourd'hui. Donc, imagine-toi dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, tous les clients qui vont vouloir avoir une empreinte carbone meilleure, ils peuvent déjà utiliser nos services. Mais plus que ça encore, tout ce qu'on aura pris en tant qu'entreprise pour les employés, les fournisseurs, etc., ça sera des modèles qu'on mettra à disposition de notre écosystème, donc de nos partenaires et de nos clients, pour dire, ben voilà, on a appris ça, ben c'est des choses qu'on vous met à disposition pour essayer d'améliorer votre équation carbone.
Et justement, là, pour terminer le podcast, j'ai envie de rebondir là-dessus, de revenir sur ce business qui est devenu vert. Est-ce que tu penses que c'est même pas que tu penses, là je vais te parler personnellement en tant que Carlo, ces convictions, si tu as suivi finalement le mouvement des entreprises à devenir plus éthiques, ou toi-même tu as levé le sentiment qu'il fallait agir pour l'environnement de façon tout à fait objective?
Alors je vais te dire, comme tout le monde, je pense, il y a des épiphanies à des moments de la vie où tu découvres des choses et tu t'as envie d'adhérer à une mission et de prendre une bataille. La diversité,
la quête
par
de
exemple.
Sens.
Ben oui, c'est-à-dire que on n'est pas né avec ça dans la tête. C'est-à-dire qu'on l'a pas appris quand on était petit. On n'avait pas la même sensibilité il y a quelques années. Dans mon cas, il y a quelques décennies. Donc, par exemple, l'inclusion et la diversité, moi, je l'ai apprise quand j'avais 31 ans. Je me rappelle exactement.
Ah oui, c'est précis.
C'est précis, parce que j'ai fait partie d'un groupe de travail à l'époque chez IBM pour écrire en fait la charte diversité et inclusion pour IBM à l'époque, et je me suis aperçu dans ces travaux-là en fait que j'avais plein de biais et que j'avais pas tout compris, loin de là, et là du coup je me suis passionné au sujet et je me suis non seulement amélioré, mais je dis pas devenu role model, mais j'ai continué les 10, 18, 19 ans qui ont suivi, ben, j'essayais d'être fort avec des actions, de l'intention et des actions qui en découlent. Sur la partie environnement, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, effectivement, je me suis rendu compte au fur et à mesure que Microsoft étendait son rayon de compréhension et d'action, sur le climat. Je me suis dit, même l'opération Microsoft France, on peut faire plein de choses. Et il y a eu un croisement, il y a un peu plus d'un an, où Microsoft travaillait sur ce plan Et donc, je me suis renseigné sur quel était en fait l'engagement de Microsoft sur la partie climate change. Et en parallèle, on a eu 1, puis 2, puis 10, puis 20, puis 40, 45 collaborateurs Microsoft qui nous ont donné un feedback sur des choses qu'on faisait dans l'entreprise et qui n'étaient pas si responsables. Et donc, au fur et à mesure, je me suis passionné au sujet, au niveau bien sûr professionnel, mais aussi au niveau personnel. Et en fait, maintenant, c'est devenu une discussion presque journalière, parce que.
Et au quotidien, toi, quels sont tes gestes, toi, en tant que citoyen éco-responsable?
Quelque chose sur lequel maintenant on a commencé à faire attention, c'est changer l'alimentation en tenant compte, en fait, de quelles sont les opérations qu'il y a derrière. J'y avais jamais réfléchi avant. Donc, est-ce que tu manges plus de légumes ou plus de viande? Mais pourquoi? Et en fait, quel produit tu choisis et pourquoi? Le fait de se poser ces questions-là, j'avoue qu'il y a 2-3 ans, je ne me posais pas ces questions. Aujourd'hui, je me les pose.
En Italie, on est assez épicurien, donc je pense que la nourriture est un peu au centre. Mais on consomme local.
Ça ne doit pas empêcher de manger bon ou de qualité ou de se faire plaisir. Mais en fait, c'est une autre attention à la chose. Et puis aussi, le packaging des produits. Si le plastique, on sait qu'on le retrouve dans les fleuves, dans la mer, est-ce qu'on peut faire plus attention à ça? Donc maintenant, je me balade avec une gourde toujours avec mon nom. Avant, je ne le faisais pas. Donc, c'est des petits gestes.
Et tu réduis aussi, là en ce moment, tu es confiné, mais tu réduis aussi tes moyens de transport, tes déplacements, ce que tu disais tout à l'heure.
Le confinement a déjà démontré en fait qu'on peut produire, c'est travailler, vrai. Faire des podcasts et plein de choses en étant chez soi. Donc, je pense que ça va repositionner quelque chose dans nos têtes par rapport au grand voyage qu'on pouvait faire avant. On va se reposer la question. Je vais me reposer la question. L'utilisation de la voiture. Déjà, je vais passer à une voiture électrique qui est, je sais qu'il faut utiliser pendant 40, 50 000 kilomètres pour que ce soit plus écologique qu'une voiture à essence ou diesel. Mais bon.
Mais tu montres que tu t'es renseigné quand même jusqu'au bout de la voiture électrique.
Oui, exactement. Et donc, je sais que c'est pas idéal, mais c'est quand même un peu mieux qu'avant. Et donc, on essaye de se lancer vers ce nouveau paradigme. Mais je pense aussi que le fait de travailler de chez soi plus et d'aller au bureau avec une intention précise de pourquoi j'y vais et en utilisant des moyens écologiques, ça va être de plus en plus quelque chose de non seulement possible, mais souhaitable.
Et encouragé. Avant, le télétravail était un peu mal vu parce que, je sais pas, il fallait faire du présentiel, du présentéisme. Et je crois que c'est le présentéisme. Hein. Présentiel n'est pas le mot. Et moi, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai quitté le milieu de l'entreprise. C'est parce que je ne sais pas faire de présentéisme. Je suis efficace et moi, je travaille beaucoup mieux de chez moi, typiquement, enfin à distance.
Je pense que la crise que nous venons de vivre, Alice, ces 2 derniers mois, va être, il y aura, tout le monde le dit, en avant et en après. Et ça fait partie des choses que nous aurons après. Nous avons appris plein de choses. Je pense que la façon de consommer, la façon de bouger, la façon de travailler des Françaises et des Français va se transformer. Il y a une prise de conscience totale sur le fait qu'on a des outils qui nous permettent de faire les choses différemment. Mais aussi, on va regarder les entreprises, les choix stratégiques qu'elles font, les produits qu'elles vont nous fournir, les services, hein, avec un œil un peu différent. Et du coup, je pense que, je pense et j'espère que cette bataille pour le climat, qui était une bataille de peu, va devenir une bataille de beaucoup, et j'espère une bataille de tout le monde.
Eh ben, je crois que Carlo, sur ces très belles paroles, notre discussion va prendre fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions en toute sincérité. Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, Podinstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast. Et n'oubliez pas de nous noter aussi sur Apple Podcast 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage. Et puis au-delà de ça, ça nous permet aussi d'être davantage valorisés sur Apple. Je vous embrasse et à très vite.